VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Cour pénale internationale de la Haye, CPI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, acquitté mardi d'accusation de crime contre l'humanité, restera en détention jusqu'à une nouvelle audience le 1er février. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la chambre d'appel de la CPI. Les juges du tribunal ont décidé que la détention de Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes ivoiriens, sera maintenu en attendant l'examen de l'appel du procureur sur leur mise en liberté. La chambre d'appel a programmé une audience le 1er février 2019 pour entendre d'autres arguments sur l'appel en cours, a précisé la CPI dans un communiqué. En première instance, les juges avaient ordonné la remise en liberté immédiate des deux responsables ivoiriens suite à leur acquittement. Mais cette décision a été suspendue mercredi soir suite à l'appel introduit par l'accusation. Les procureurs craignent que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne comparaissent pas devant la cour si leur présence est requise dans le futur. L'accusation a déjà annoncé son intention de faire appel sur la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, mais cette démarche distincte pourrait prendre des mois. Violence au Mali. Une quinzaine de djihadistes soupçonnés de préparer une attaque dans la région de Dialoubé ont été tués le 10 janvier dans la forêt de Serma, dans le centre du pays, par des frappes aériennes françaises. C'est ce qu'a annoncé l'état-major des armées françaises dans son point opérationnel hebdomadaire. Et puis au Ghana, l'assassinat de journalistes d'investigation ayant participé à une vaste enquête sur la corruption dans le football africain suscite l'indignation générale au sein de la presse locale et internationale. Nos confrères sur place dénoncent ce qu'ils appellent les graves menaces pesant sur les médias. Précision de Jacques Aristide.
Ahmed Hussein a été abattu mercredi soir par des hommes non identifiés alors qu'il rentrait chez lui en voiture à Accra. Le journaliste de 34 ans a reçu des balles à la poitrine et au cou. Il faisait partie de l'équipe de reporters infiltrés dirigée par le célèbre journaliste Anassaré Mayor qui a fait éclater l'an dernier un scandale de corruption et de matchs truqués conduisant à de lourdes sanctions des instances internationales de football. L'Institut international de la presse qui regroupe des éditeurs et journalistes de plus de 120 pays, de même que le Comité pour la protection des journalistes, appelle le gouvernement ghanéen à enquêter rapidement sur ce crime et à traduire les assassins en justice. Même indignation du côté de l'Association des journalistes du Ghana qui évoque un signal inquiétant indiquant que les médias sont sérieusement attaqués. Elle demande au chef de l'État, Nana Akufo-Addo, de se saisir personnellement de l'affaire.
Afrique centrale maintenant, élection en République démocratique du Congo. L'Union africaine n'a pas dicté sa conduite à la Cour constitutionnelle congolaise en RDC. C'est la réaction aujourd'hui de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, au lendemain de l'appel de l'Union africaine à suspendre la proclamation des résultats des élections. Le point avec Idrissa Sédoudia.
La Cour est indépendante et de nous et de l'Union africaine, a déclaré à l'AFP le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Je ne pense pas qu'il appartienne au gouvernement ou même à l'Union africaine de dire à la Cour ce qu'elle doit faire. L'UA a publié jeudi soir, à l'issue d'une réunion à Addis Abeba de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, un communiqué dans lequel elle émet des doutes sérieux sur la conformité des résultats provisoires tels qu'ils ont été proclamés par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. En conséquence, les chefs d'État et de gouvernement demandent la suspension de la proclamation des résultats définitifs des élections. L'Union africaine a aussi annoncé l'envoi lundi d'une délégation comprenant le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, et le président de l'UA, le chef de l'État rwandais, Paul Kagame. Selon les résultats proclamés le 10 janvier par la CENI, l'opposant Félix Tshisekedi a remporté l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, tandis que le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, garderait une confortable majorité à l'Assemblée nationale, au moins 350 députés sur 500. L'autre opposant, Martin Fayoulou, revendique la victoire avec 61% des voix et il a saisi la Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats résultat définitif d'ici à mardi 22 janvier, date prévue de la prestation de serment du nouveau président.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique australe maintenant, au Zimbabwe, le pasteur Ivan Mawarire a réfuté hier devant la justice les accusations de subversion pour son soutien à la fronde sociale qui agite le pays depuis plusieurs jours. Le point avec Raissa Girondin.
Arrêté mercredi, le pasteur Mawarire a comparu devant un tribunal de Harare. Il est accusé d'incitation à la violence via les réseaux sociaux et de subversion. « Je n'ai absolument rien fait de ce que l'on me reproche », a plaidé le porte-drapeau de la révolte de 2016 en arrivant au palais de justice. Le Zimbabwe a été le théâtre de violentes manifestations contre la hausse des prix des carburants à la pompe, décrétée samedi par le gouvernement. À Harare, la capitale, et à Bulawayo, de nombreux commerces ont été pillés, des bâtiments et des voitures incendiés. Les autorités ont annoncé la mort de 3 personnes, dont un policier. Le ministre de la Sécurité, Owen Kube, a annoncé mercredi que plus de 600 personnes ont été arrêtées. Selon Dowa Mavinga de Human Rights Watch, depuis le début des troubles lundi, les gens sont cloîtrés chez eux, il n'y a pas de transport public, les écoles sont fermées et les gens manquent de nourriture.
Retour en Afrique de l'Ouest, au Bénin, les femmes victimes de fistules obstétricales font toujours face à l'abandon et au rejet social. Elles sont même condamnées à vivre à l'écart. Au reportage de Ginette Fleurard-Dandé, notre correspondante à Cotonou.
Les fistules obstétricales au Bénin restent encore un sujet difficile à aborder. Nawarata, 30 ans et mère de 4 enfants. Victime de fistules obstétricales, elle a été bannie de sa communauté.
Tout a commencé après des complications liées à ma grossesse. Pendant 3 jours, j'ai saigné sans pouvoir me rendre à l'hôpital faute de moyens. Suite à cela, j'ai commencé par ressentir des douleurs au niveau de la colonne et par perdre le contrôle total de mon urine. C'était vraiment pénible, très difficile à vivre.
Au centre de santé de Saint-Méré, à environ 500 km de Cotonou, on y rencontre beaucoup de fistuleuses. C'est le cas de Hadidjat, 47 ans, guérie depuis plus de 5 ans, mais qui refuse de réintégrer la communauté qui l'a rejetée.
Pendant mes 12 ans de maladie, j'ai terriblement maigri. Je n'arrivais pas à manger régulièrement. À peine je mangeais que les selles risquaient de s'échapper. J'étais en permanence en couche. Je ne pouvais me présenter dans les grandes assemblées de peur de sentir mauvais et de révéler au grand jour ma maladie. C'est arrivé au point où j'ai envisagé de me suicider.
Il n'y a pas de chiffres fiables sur le nombre de femmes béninoises atteintes de fistules obstétricales. Gisèle Badito est médecin. Elle estime que le coût exorbitant des interventions chirurgicales pousse beaucoup de femmes à ne pas se faire connaître. Une réalité qui en rajoute à la stigmatisation.
Ce n'est pas une maladie qui est déclarée. La prise en charge de cette fissure obstétricale, c'est très difficile et ce n'est pas une opération qui permet nécessairement d'arriver à vous. Il faut peut-être 3 à 4 opérations. Avec le coût de cet acte-là, les femmes sont réticentes.
Tongueta, ville située au nord du Bénin, abrite un campement tenu par les religieux et qui accueille les femmes victimes de la fistule obstétricale. Sœur Thérèse Kelendibo explique ici les conditions ayant poussé à la création du campement.
Les malades n'arrivent pas à se déplacer pour venir au centre, surtout si ce sont des interventions chirurgicales. Ça nécessite que ces malades soient auprès de l'hôpital. Donc ceux qui viennent, n'ayant pas grand moyen, préfèrent rester sous les manguiers.
Au Bénin, même si des facteurs cliniques favorisent les fistules obstétricales, il y a des causes qui, selon Dr Mbonou, méritent sensibilisation.
Il faut que le bassin de la femme soit mature. Mais si on envoie une petite fille de 15 ans et en mariage précoce, au cours de l'accouchement, il y aura des problèmes. En dehors de ça, il y a les pratiques traditionnelles. Dans les zones reculées, rares sont les femmes qui sont autorisées, même si tu as les propres moyens, de te rendre à l'hôpital sans l'autorisation de ton mari.
L'urgence aujourd'hui reste la sensibilisation mais aussi la promptitude du gouvernement à prendre à bras le corps ce drame social qui peut être inscrit au rang des stigmatisations dont sont victimes les femmes. De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Afrique.
Et pour terminer, le candidat de l'opposition à la présidentielle du 16 février au Nigeria, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, est arrivé hier soir à Washington pour une tournée officielle en amont des élections. C'est ce qu'a annoncé son équipe de campagne, mettant fin aux rumeurs selon lesquelles le multimillionnaire ne pouvait se rendre aux États-Unis où il serait cité dans une affaire de corruption, selon ses détracteurs. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.